Voici la table des origines de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères, Judas de son union avec Tamar engendra Phares et Zara, Phares engendra Esrom, Esrom engendra Aram, Aram engendra Aminadab, Aminadab engendra Nahshon, Nahshon engendra Salmon, Salmon de son union avec Rahab engendra Boaz, Boaz de son union avec Ruth engendra Jobed, Jobed engendra Jessé, Jessé engendra le roi David. David, de son union avec la femme d'Urias, engendra Salomon. Salomon engendra Roboam. Roboam engendra Abia. Abia engendra Asa. Asa engendra Josaphat. Josaphat engendra Joram. Joram engendra Ozias. Ozias engendra Joatam. Joatam engendra Akaz. Akaz engendra Ézéchias, Ézéchias engendra Manassé, Manassé engendra Amon, Amon engendra Josias, Josias engendra Jéconias et ses frères à l'époque de l'exil à Babylone. Après l'exil à Babylone, Jéconias engendra Zalatiel, Zalatiel engendra Zorobabel, Zorobabel engendra Abiud, Abiud engendra Eliakim, Eliakim engendra Azor, Azor engendra Sadoc, Sadoc engendra Akim, Akim engendra Elioud, Elioud engendra Éléazar, Éléazar engendra Matan, Matan engendra Jacob, Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, que l'on appelle Christ ou Messie. Le nombre total de générations est donc 14 d'Abraham jusqu'à David, 14 de David jusqu'à l'exil à Babylone et 14 de l'exil à Babylone jusqu'au Christ. Acclamons la parole du Seigneur. Cet évangile de Matthieu qui nous situe dans la généalogie de Jésus-Christ, notre Seigneur. Matthieu est le seul d'ailleurs à en parler. C'est le seul qui fait allusion à cette généalogie, comme s'il ressentait un besoin d'expliquer au monde comment, en fait, l'histoire, les origines de Jésus-Christ, le côté humain de Jésus, et en même temps pour relever comment Dieu travaille. Jésus, le Messie qui vient, il vient, vous allez voir dans la généalogie, si vous faites attention, il vient pour le sang pur et il vient pour le sang souillé par le péché et par la malédiction. Quand on regarde l'arbre généalogique de Jésus, ça nous situe d'abord à partir évidemment de Abraham, Isaac et puis Jacob, pardon, Judas. On parle beaucoup de Jésus comme le lion de Juda, et on a entendu dans la première lecture, il est question du lion de Juda. J'ai donné un enseignement, je pense, qui est sur le site, sur l'agneau de Dieu, mais qui est en même temps le lion de Juda. Quand on regarde une parenthèse, l'agneau de Dieu dans la Bible, vraiment Ésaïe 61 nous montre que l'agneau de Dieu, c'est le temps de la grâce. Dieu nous fait grâce et c'est le temps où tout le monde a accès au livre ouvert, le temps de l'agneau qui est assis sur le trône. Et à la fin, Jésus aussi, le lion de Juda. Le lion de Juda, c'est le temps, la dernière partie, le verset que Jésus a caché. Il a mis la main dessus, qui était le temps de la vengeance, qu'on appelle le temps du tribunal. C'est ça qu'on appelle la partie Jésus, qui ne sera plus l'agneau, mais à la fin des temps, Jésus sera le lion de Juda. Il sera le lion, on le dit dans les livres de Proverbes, quand le roi prononce son jugement, c'est comme le lion qui rugit. Donc, c'est le temps du jugement. Le temps du lion, c'est le temps du jugement. Et Jésus, le 2, dans Apocalypse 5, on nous dit, voici, il est digne, le lion de Juda, pour ouvrir le livre et d'en faire le sceau. Et Jean regarda sur le trône et il vit l'agneau immolé. Le lion n'était plus là, c'est l'agneau qui était là, parce que c'est le temps de la grâce. Et le lion vient pour le temps de la fin, le temps du jugement. Alors ça c'est, donc la parole de Dieu situe Jésus déjà en lien avec Juda, alors que Jacob a eu 12 enfants, 10, et il a adopté 2, donc 12 enfants, pourtant on ne parle que de Juda, pour mettre un lien avec Jésus-Christ. La deuxième chose que je voudrais vous montrer dans l'évangile et la généalogie de Jésus, c'est vraiment comment dans l'arbre généalogique de Jésus, ce n'est pas une ligne droite. Il y a eu des gens qui ont eu un sens souillé, qui sont entrés dans la généalogie de Jésus. Je donne juste deux exemples, parce qu'il y en a beaucoup. Je donne juste deux exemples. Le cas de Ruth, Ruth qui est la femme de Booz ou de Boaz, dans certaines traductions. Ruth, vous savez qu'il est de la descendance des enfants, des filles de Lot, les enfants qu'ils ont eus par l'inceste avec leur père. Et ces enfants ont été frappés de malédiction pendant 10 années. Pourtant, vous savez que Ruth a épousé le fils de Naomi et il ne pouvait pas avoir d'enfants à cause de la malédiction. Juste au moment où, à la fin, quand Naomi, son mari, est décédé en exil, il est revenu à Bethléem, Ruth a décidé de suivre cette femme. Elle est venue avec sa belle-mère. Sa belle-mère lui a dit non, reste adorer tes dieux. Il dit non, moi je vais avec toi. Tes dieux, ton Dieu sera mon Dieu maintenant. Ton peuple deviendra mon peuple. À partir du moment où il a pris cette décision d'adorer les dieux d'Israël, il est entré dans cette nouvelle alliance. Et alors, Boaz, qui était le neveu de Naomi, est tombé en amour avec. Et Boaz avait eu une femme avant qui ne donnait pas de descendance et qui est décédée. Et alors, il a épousé Naomi, il a épousé Ruth. Et Ruth est entrée justement par cette alliance, il est entré dans la lignée. C'est Ruth qui a donné la chance à Boaz d'avoir un enfant. Sinon, il n'y aurait pas eu cette généalogie. Il y aurait eu une coupure. C'est grâce à Ruth qui est venue avec le sang de la malédiction et s'est unie avec Boaz qui avait le sang purifié. Cette union a fait qu'il y a eu cette descendance qui a donné naissance finalement. Donc, regarde, Boaz, de son union avec Ruth, engendra Jobès qui est le grand-père de David. Et Jobès a engendré Jessé qui est le papa du roi David. Et la parole de Dieu dit, le royaume de Jésus, c'est de la lignée de David. Donc ce lien avec David, mais David lui-même vient d'un sang qui était un sang souillé avec un sang pur ensemble. L'origine de Jésus, c'est un sang pur avec un sang souillé. Ne l'oublions pas. Alors remarquez, après le roi David, la parole de Dieu dit, David de son union avec la femme d'Urias. Mais Urias, c'est un enfant... Salomon, c'est un enfant d'adultère. Urias, c'était le général du roi David. Le roi David, vous connaissez l'histoire, il marchait et il a vu la femme du général Urias en train de se baigner. Et finalement, il a été séduit. Et il l'a fait venir, il a couché avec. Et la parole de Dieu dit, cette femme est tombée enceinte. Et le roi Salomon, le roi David a commencé à chercher comment tuer ce général. Parce qu'il avait peur que la chose se fasse connaître. Et il lui a donné une lettre pour aller, qu'on le mette au niveau du front, là où il y avait la guerre, était intense. Et cet homme est mort. Et finalement, David a pris sa femme. Salomon est né d'une union illégitime. Salomon, c'est un fils adultérin. Mais regardez, il est dans la lignée de Jésus. Qu'est-ce que je veux vous dire aujourd'hui? C'est vraiment de prendre conscience. Purifions notre regard quand nous voyons les gens parfois qui ont eu un passé mauvais, qui étaient dans la prostitution, qui étaient des pécheurs. Quand ils reviennent à Dieu, le sang de Jésus porte déjà quelque chose de toutes ces personnes-là. Le péché est entré déjà dans le sang de Jésus, dans la généalogie de Jésus. Il y a eu le péché dedans. Donc, en quelque sorte, comme pour dire, Jésus est venu sauver ceux qui étaient nés du sang pur et ceux qui sont nés du sang souillé, les pécheurs. C'est important que nous comprenions cela. Sinon, nous risquons de devenir des puritains, des gens qui ne sont là que pour le pur. Non, Jésus est venu aussi pour les gens souillés. Il faut leur donner la chance de recevoir Jésus. Il faut leur donner la chance de revenir à l'église. Il faut qu'on leur ouvre le port, qu'on leur ouvre le bras. Parce que pour eux aussi, Jésus a donné, est venu pour le sauver. Et c'est très important que nous comprenions cela. Ça, c'est le premier message. Le deuxième message, c'est par rapport à nous-mêmes. Parfois, nous disons tout le temps, je ne suis pas digne. Moi, je ne suis pas digne. Remarquez, dans la généalogie de Jésus, des gens qui n'étaient pas dignes, pourtant, ont été associés à cette alliance. Dieu ne vient pas nous chercher parce que nous sommes d'abord dignes. C'est parce qu'il nous aime. Le message de Noël, c'est le message d'amour. Dieu a tellement aimé le monde qu'il vient vers nous. Cet amour nous rapproche de Dieu. Cet amour nous rapproche de la sainteté. Quand nous sommes aimés, quand nous réalisons que Dieu nous a aimés et quand nous savons que nous sommes aimés de Dieu, alors notre vie commence à s'ajuster à la volonté de Dieu et alors notre vie commence à se sanctifier. Mais jamais Dieu ne vient nous chercher parce que nous sommes dignes, jamais. Il vient nous chercher parce qu'il nous aime. Alors offrons cette Eucharistie et prions les uns pour les autres afin que nous ne puissions pas nous désolidariser de ce projet de Dieu qui vient pour nous sauver. Le salut est donné à tout le monde, même aux pécheurs le plus grave, même aux gens qui ont commis des péchés qui font horreur à notre société. Quand ils se convertissent, quand ils reviennent à Dieu, Dieu veut les sauver eux aussi. Ouvrons notre cœur à cette dimension, ouvrons notre prière à cette dimension pour associer le pécheur au salut de Dieu. Amen.